Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à Là-haut sur la colline, y a-t-il un privilège religieux? Car alors que ce soir, en zone rouge, les bars et restaurants, entre autres, fermeront leurs salles, les églises et autres lieux de culte ont obtenu de pouvoir recevoir jusqu'à 25 fidèles. On en discute avec Mgr Pierre Meret, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, qui dénonçait encore récemment la fermeture du gouvernement Legault à l'égard des religions. Mais d'abord, la chef de l'opposition, Dominique Anglade.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
La chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a demandé ce matin la démission de la ministre des Relations avec les Autochtones. Elle est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a conduit à demander ce qu'on enlève à Sylvie Damour son portefeuille?
Ben, la réalité, c'est que depuis déjà plusieurs mois, le milieu autochtone ne cesse de dire à quel point ils n'ont pas de relation avec la ministre. Ça a été rapporté à plusieurs reprises que, encore une fois, cette fin de semaine, elle disait son rôle, c'est vraiment un rôle d'être de faire des relations publiques. Il y a eu des événements où elle a même qualifié certaines associations de quatrième partie d'opposition dont elle n'avait pas besoin.
Oui, c'était donc, au crédit. Elle a dit ça au crédit.
Oui, c'était au crédit. Ouais. Elle a dit ça au crédit. Elle a dit, bon, alors, les tensions sont palpables et le compte du compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du dépôt là, du rapport de la commission bien et ils ont émis un communiqué sur les progrès qui avaient été faits. Alors que c'est une véritable blague, lorsqu'on regarde les 141 recommandations, ils nous disent qu'il y a 50 recommandations qui sont en progrès. Et lorsque l'on regarde le communiqué, ils ont sorti 4 mesures qui étaient en progrès selon eux, dont l'adoption de la motion d'il y a un an, dont une autre adoption des Nations Unies. Alors, beaucoup de paroles, mais aucune action tangible et réelle. Mm-hmm. Je vois pas comment, avec la crédibilité qu'elle a dans le milieu, elle peut poursuivre. Je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership qui soit exercé dans ce domaine-là.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? Par exemple, elle est allée hier à la vigile devant le Parlement pour Joyce Echaquan. Hier aussi, elle a émis un autre, pas un communiqué, mais quand même un message Twitter où elle a tenu à réagir à la situation alarmante qui est survenue à l'hôpital de Joliette, comme elle l'écrit. Est-ce que c'est pas un peu sévère de dire qu'elle s'en est pas émue?
Ben écoutez, il faut parler avec les gens du milieu. Ouais. Les gens du milieu, on leur parle régulièrement. Ils n'ont pas d'écoute de la part de la ministre. Ils sentent qu'aucun dossier n'avance. Si vous regardez les recommandations du rapport, il y en avait quand même... Il y a 16 recommandations d'un point de vue de la justice. Il n'y en a aucune de ces recommandations. Ils n'ont travaillé sur aucune de ces recommandations-là. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on prend ce sujet-là au sérieux? Et s'il est pris au sérieux, clairement, c'est pas la ministre qui le fait. Depuis l'année dernière, il y a eu des gens qui se sont levés, notamment dans notre formation politique, pour poser des questions. Il n'y a pas de réponse. Alors moi, je vous dirais, si vous parlez avec les gens du milieu, est-ce qu'ils pensent que c'est une partenaire crédible avec laquelle échanger? Je pense pas que vous allez avoir une réponse positive là-dessus.
On dit beaucoup de bien de l'ancien ministre Kelly. Et bon, ils sont députés de père en fils dans cette circonscription qui, lui, continue, Greg, à poser des questions sur les Autochtones. Il est donc porte-parole en cette matière. Mais vous avez quand même été au pouvoir 15 ans. Puis quand on lit le rapport, en tout cas, j'ai regardé le chapitre 10 là, sur les constats relatifs aux services de santé, aux services sociaux. Il y a vraiment des problèmes graves. Est-ce que M. Kelly avait peut-être bien des contacts au sein des instances autochtones, mais est-ce qu'il a vraiment fait son travail? Est-ce qu'il n'y a pas eu de graves lacunes aussi de la part du gouvernement libéral?
Alors, je pense que quand on lit le rapport, il est évident que tous les gouvernements... il est évident que tout le monde a une part de responsabilité. La situation, là, la situation des communautés autochtones, là, elle ne date pas d'hier. Là, et ça, tout le monde en est conscient. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout a été parfait dans la gestion de ce dossier-là. Ce que je peux dire pour avoir siégé moi-même avec Jeff Kelly, c'est qu'il avait une écoute attentive auprès des communautés, qu'il y a des gestes concrets qui ont été posés pour dénouer des impasses quand c'était autochtones. Dans des conflits, dans certaines réserves, il a su les éviter, parler. On tu sais, des barricades où il disait, ben si on va dans cette direction-là, on va retourner dans ce qui s'est passé avec la crise de Oka. Comment on dénoue ça? Comment on va s'asseoir avec les personnes pour essayer d'avoir le dialogue, pour éviter des crises? Souvent en politique, c'est des crises qu'on évite aussi qui montrent qu'il y a de l'action qui a été mise de l'avant. Donc cette relation-là existait et le rapport qui a été déposé présente des pistes de solutions concrètes. Alors maintenant, c'est au gouvernement actuel d'agir sur les propositions qui sont faites. Si on m'avait dit...
Mais il me semble que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de décisions concrètes là, qui ont été prises par les gouvernements Charest et Couillard pour aider la vie des Autochtones.
Pour aider la vie des Autochtones, il y a des projets de développement économique. On peut parler par exemple du projet Atuyat. C'est un des derniers, là, le dernier en liste, là, le projet Atuyat, où on voulait justement développer un projet économique qui ferait en sorte que ça profiterait à l'ensemble des Québécois, mais aussi aux nations autochtones. On a voulu pousser de l'avant pas plus tard que la semaine dernière. Pascal Bérubé, du Parti québécois, réclamait justement pour la Côte-Nord qu'on aille de l'avant avec ce projet-là parce que justement, il n'y avait pas de grands projets dans la région. Ça, c'est un exemple concret. Je ne parle, moi, que de projets avec lesquels j'ai travaillé avec Jeff dans les dernières années, mais ça, c'en est un gros, c'en était un où tout le monde était allé chercher l'appui des nations pour faire
ça. Mais si ça a niaisé sur plein de négociations, je pense à l'autoroute 30 par exemple, il y a eu des négociateurs là très proches du parti au pouvoir, pourtant là John Parizella, Louis Bernard, je veux dire pendant des années ils ont négocié puis il me semble que ça aboutit très tardivement là.
Ben, écoutez,
même ça n'a pas abouti parfois.
La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est il y a un rapport qui a été déposé.
Ouais.
Il y a eu 141 recommandations. Est-ce que vous trouvez ça normal que sur les 141 recommandations, il n'y en ait pas une au niveau de la justice quand c'est un des éléments essentiels que les communautés avaient manifesté. On était tous en chambre, il y a un an exactement, debout avec les nations autochtones pour dire plus jamais, nous allons nous assurer de mettre le rapport, de toutes les mesures de l'avant, nous allons nous assurer d'avoir un progrès, nous allons nous assurer qu'il y ait des rencontres. Encore une fois, pendant la dernière année, lorsqu'il y a eu des rencontres, les gens ont déploré la non-présence de la ministre. Ils ont déploré le fait que les communications... Alors, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que c'est la bonne personne?
Oui.
Est-ce que c'est la bonne personne? Mais au-delà de ça...
Sur les 141 recommandations ou appels à l'action, comme on les appelle dans le rapport, vous commenceriez par quoi? Parce que c'est beaucoup, 141 aussi.
Ben oui, bien sûr.
En matière de santé, mettons, le chapitre 10, là, qu'est-ce qu'on fait là, d'abord?
Ben, il y en a plein, mais commencer par me dire... la ministre est au gouvernement, c'est à elle de dire, ben il y en a 141, voici, je vais le faire sur les deux prochaines années, je vais commencer par celles-là parce qu'elles sont prioritaires, je vais vous dire, voici 1, 2, 3, lesquelles que j'ai fait cette année sur lesquelles on travaille. Là, tout ce qu'on a présentement, puis tout ce que vous avez également présentement, c'est un rapport qui donne un communiqué qui vous dit, ben voici 4 affaires sur lesquelles on travaille, dont 2 motions qui ont été adoptées. C'est un peu mince.
Puis le rapport est très précis hein, sur certains faits et qui rappellent ce qui s'est passé à Joliette. Là. Hein? On parle, là, à la page 391, des pratiques non éthiques ciblant les femmes et basées sur des préjugés liés aux dépendances telles que des tests de dépistage de drogue effectués sans consentement auprès des femmes autochtones venues accoucher. C'est vraiment précis.
On se demande, un an plus tard, comment
ça qu'on n'a rien fait?
Alors, vous posez la question, justement. Mais quand on regarde ce qui s'est passé hier, c'était tellement... j'imagine que vous avez vu les images tout comme moi. C'était insupportable.
C'était insupportable. Ah oui.
Et ça te renvoie en plein visage aussi la situation dans laquelle on se trouve au Québec sur cet enjeu-là et la nécessité de véritablement agir. C'est quand la dernière fois qu'on a vu quelque chose d'aussi insupportable dans ce contexte-là où une femme, mère d'enfant, vit ses derniers moments, est obligée de filmer pour montrer ce qui se passe, est obligée de le filmer. Ça montre l'importance. Et à ce moment-là, il faut s'élever et se dire, on s'est rappelé qu'il y a un an, on avait dit plus jamais, puis depuis un an, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Passons à une vitesse supérieure, assumons un véritable leadership, et c'est ce qu'on demande au gouvernement Legault, et présentement, ce n'est pas ce qui est assumé. C'est même pas assumé. Elle n'était pas en chambre aujourd'hui pour répondre aux questions, de toute façon. Ça fait un an.
Comment vous expliquez cette absence-là? Est-ce que ça peut être le hasard des rotations, ou est-ce qu'il aurait fallu...
Je soumets la question. J'ai pas la réponse, mais elle n'était pas en chambre aujourd'hui, alors que c'était l'anniversaire de ce dépôt qui, quand même, tout le monde, à l'unanimité, s'est levé en chambre. Tous les partis, toute allégeance confondue, on s'est levé puis on a dit, il faut qu'on agisse, il faut qu'on prenne des mesures. Et pendant l'année, il y a eu beaucoup, beaucoup de rappels sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avançait, que la ministre était absente, que les gens se plaignaient, que les gens voulaient avoir des discussions. Quand il est rendu à dire que tes partenaires sont des partis d'opposition et que tu n'en as pas besoin, si tu dis ça de tes partenaires, voilà.
Merci beaucoup, Dominique Anglade, pour cette conversation.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.